Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 3, suite 2. Ce que malheureusement j'ignorais à ce moment-là, et que je n'appris que plus de 2 ans après, c'est qu'un des clients du chauffeur était Monsieur de Charlus, et que Morel, chargé de le payer et gardant une partie de l'argent pour lui, en faisant tripler et quintupler par le chauffeur le nombre de kilomètres, s'était beaucoup lié avec lui, tout en ayant l'air de ne pas le connaître devant le monde, et usait de sa voiture pour des courses lointaines. Si j'avais su cela alors, et que la confiance qu'eurent bientôt les Verdurin en ce chauffeur venait de là, à leur insu peut-être, bien des chagrins de ma vie à Paris l'année suivante, bien des malheurs relatifs à Albertine eussent été évités. Mais je ne m'en doutais nullement. En elle-même, les promenades de M. de Charlus en auto avec Morel n'étaient pas d'un intérêt direct pour moi. Elles se bornaient d'ailleurs plus souvent à un déjeuner ou à un dîner dans un restaurant de la côte, où M. de Charlus passait pour un vieux domestique ruiné et Morel, qui avait mission de payer les notes, pour un gentilhomme trop bon. Je raconte un de ces repas qui peut donner une idée des autres. C'était dans un restaurant de forme oblongue à Saint-Mars-le-Vêtu. Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever ceci ? Demanda M. de Charlus à Morel comme à un intermédiaire et pour ne pas s'adresser directement au garçon. Il désignait par « ceci » 3 roses fanées dont un maître d'hôtel bien intentionné avait cru devoir décorer la table. « Si !» dit Morel embarrassé. « Vous n'aimez pas les roses ?»« Je brouverai au contraire par la requête en question que je les aime, puisqu'il n'y a pas de roses ici. » Morel parut surpris. « Mais en réalité, je ne les aime pas beaucoup. Je suis assez sensible au nom, et dès qu'une rose est un peu belle, on apprend qu'elle s'appelle la baronne de Rothschild ou la maréchale Niel, ce qui jette un froid. Aimez-vous les noms ? Avez-vous trouvé de jolis titres pour vos petits morceaux de concert ? Il y en a un qui s'appelle « Poème triste ». « C'est affreux !» répondit M. de Charlus d'une voix aiguë et claquante comme un soufflet. « Mais j'avais demandé du champagne !» dit-il au maître d'hôtel qui avait cru en apporter en mettant près des 2 clients 2 coupes remplies de vin mousseux. « Mais, monsieur, ôtez cette horreur qui n'a aucun rapport avec le plus mauvais champagne. C'est le vomitif appelé cup, où on fait généralement traîner 3 fraises pourries dans un mélange de vinaigre et d'eau de Seltz. Oui, continua-t-il en se retournant vers Morel, vous semblez ignorer ce que c'est qu'un titre, et même dans l'interprétation de ce que vous jouez le mieux, vous semblez ne pas apercevoir le côté médiumnimique de la chose. « Vous dites ?» demanda Morel, qui, n'ayant absolument rien compris à ce qu'avait dit le baron, craignait d'être privé d'une information utile, comme par exemple une invitation à déjeuner. Monsieur de Charlus, ayant négligé de considérer « vous dites » comme une question, Morel, n'ayant en conséquence pas reçu de réponse, crut devoir changer la conversation et lui donner un tour sensuel. « Tenez, la petite blonde qui vend ses fleurs que vous n'aimez pas, encore une qui a sûrement une petite amie, et la vieille qui dîne à la table du fond aussi. « Mais comment sais-tu tout cela ? » demanda M. de Charlus, émerveillé de la prescience de Morel. « Oh, en une seconde, je les devine. Si nous nous promenions tous les deux dans une foule, vous verriez que je ne me trompe pas 2 fois. » Et qui eût regardé en ce moment Morel avec son air de fille au milieu de sa mâle beauté, eût compris l'obscure divination qui ne le désignait pas moins à certaines femmes que elles à lui. Il avait envie de supplanter Jupien, vaguement désireux d'ajouter à son fixe les revenus que, croyait-il, le giletier tirait du baron. Et pour les gigolos, je m'y connais mieux encore. Je vous éviterai toutes les erreurs. Ce sera bientôt la foire de Balbec. Nous trouverions bien des choses. Et à Paris, alors, vous verriez que vous vous amuseriez. Mais une prudence héréditaire du domestique lui fit donner un autre tour à la phrase que déjà il commençait. De sorte que M. de Charlus crut qu'il s'agissait toujours de jeune fille. « Voyez-vous, » dit Morel, désireux d'exalter d'une façon qu'il jugeait moins compromettante pour lui-même, bien qu'elle fût en réalité plus immorale, l'essence du baron. « Mon rêve, ce serait de trouver une jeune fille bien pure, de m'en faire aimer et de lui prendre sa virginité. » M. de Charlus ne put se retenir de pincer tendrement l'oreille de Morel, mais ajouta naïvement « À quoi cela te servirait-il? Si tu prenais son pucelage, tu serais bien obligé de l'épouser. » L'épouser? S'écria Morel, qui sentait le baron grisé, ou bien qui ne songeait pas à l'homme, en somme, plus scrupuleux qu'il ne croyait, avec lequel il parlait. L'épouser? Des nèfles! Je le promettrais, mais dès la petite opération menée à bien, je la plaquerai le soir même. Monsieur de Charlus avait l'habitude, quand une fiction pouvait lui causer un plaisir sensuel momentané, d'y donner son adhésion, quitte à la retirer tout entière quelques instants après, quand le plaisir serait épuisé. « Vraiment, tu ferais cela ? » dit-il à Morel en riant et en le serrant de plus près. « Mais comment ? » dit Morel, voyant qu'il ne déplaisait pas au baron, en continuant à lui expliquer sincèrement ce qui était en effet un de ses désirs. « C'est dangereux, » dit M. de Charlus. « Je ferai mes mal d'avance, et je ficherai le camp sans laisser d'adresse. »« Et moi ?» demanda M. de Charlus. « Je vous emmènerai avec moi, bien entendu. » s'empressa de dire Morel, qui n'avait pas songé à ce que deviendrait le baron, lequel était le cadet de ses soucis. « Tenez, il y a une petite qui me plairait beaucoup pour ça. C'est une petite couturière qui a sa boutique dans l'hôtel de Monsieur le Duc. »« La fille de Jupien ? » s'écria le baron pendant que le sommelier entrait. « Oh, jamais ! » ajouta-t-il. Soit que la présence d'un tiers l'eût refroidi, soit que, même dans ces espèces de messes noires où il se complaisait à souiller les choses les plus saintes, il ne put se résoudre à faire entrer des personnes pour qui il avait de l'amitié. « Jupien est un brave homme, la petite est charmante. Il serait affreux de leur causer du chagrin. » Morel sentit qu'il était allé trop loin et se tut. Mais son regard continuait, dans le vide, à se fixer sur la jeune fille devant laquelle il avait voulu un jour que je l'appelasse « cher grand artiste » et à qui il avait commandé un gilet. Très travailleuse, la petite n'avait pas pris de vacances. Mais j'ai su depuis que, tandis que Morel, le violoniste, était dans les environs de Balbec, elle ne cessait de penser à son beau visage. Ennoblie de ce qu'ayant vu Morel avec moi, elle l'avait pris pour un monsieur. « Je n'ai jamais entendu jouer Chopin, » dit le baron. « Et pourtant j'aurais pu. Je prenais des leçons avec Stamati. » Mais il me défendit d'aller entendre, chez ma tante Chimay, le maître des nocturnes. « Quelle bêtise il a faite là !» s'écria Morel. « Au contraire !» répliqua vivement d'une voix aiguë Monsieur de Charlus. « Il prouvait son intelligence. Il avait compris que j'étais une nature et que je subirais l'influence de Chopin. Mais ça ne fait rien, puisque j'ai abandonné tout jeune la musique, comme tout du reste. » Et puis, on se figure un peu, ajouta-t-il d'une voix nasillarde, ralentie et traînante. Il y a toujours des gens qui ont entendu, qui vous donnent une idée. Mais enfin, Chopin n'était qu'un prétexte pour revenir au côté médiumnimique que vous négligez. On remarquera qu'après une interpolation du langage vulgaire, celui de Monsieur de Charlus était brusquement redevenu aussi précieux et hautain qu'il était d'habitude. C'est que l'idée que Morel plaquerait sans remords une jeune fille violée lui avait fait brusquement goûter un plaisir complet. Dès lors, ses sens étaient apaisés pour quelque temps, et le sadique, lui, vraiment médium nimique, qui s'était substitué pendant quelques instants à Monsieur de Charlus, avait fui et rendu la parole au vrai Monsieur de Charlus, plein de raffinement artistique, de sensualité, de bonté. Vous avez joué l'autre jour la transcription au piano du 15e quatuor, ce qui est déjà absurde, parce que rien n'est moins pianistique. Elle est faite pour les gens à qui les cordes trop tendues du glorieux sourd font mal aux oreilles. Or, c'est justement ce mysticisme presque aigre qui est divin. En tout cas, vous l'avez très mal joué. En changeant tous les mouvements, il faut jouer ça comme si vous le composiez. Le jeune Morel, affligé d'une surdité momentanée et d'un génie inexistant, reste un instant immobile. Puis, pris du délire sacré, il joue, il compose les premières mesures. Alors, épuisé par un pareil effort d'entrance, il s'affaisse, laissant tomber la jolie mèche pour plaire à Madame Verdurin. Et de plus, il prend ainsi le temps de refaire la prodigieuse quantité de substance grise qu'il a prélevée pour l'objectivation pitique. Alors, ayant retrouvé ses forces, saisi d'une inspiration nouvelle et suréminente, il s'élance vers la sublime phrase intarissable que le virtuose berlinois, nous croyons que Monsieur de Charlus désignait ainsi Mendelssohn, devait infatigablement imiter. C'est de cette façon, seule vraiment transcendante et animatrice, que je vous ferai jouer à Paris. Quand Monsieur de Charlus lui donnait des avis de ce genre, Morel était beaucoup plus effrayé que de voir le maître d'hôtel remporter ses roses et son cup dédaigné, car il se demandait avec anxiété quel effet cela produirait à la classe. Mais il ne pouvait s'attarder à ses réflexions, car Monsieur de Charlus lui disait impérieusement « Demandez au maître d'hôtel s'il a du bon chrétien. » « Du bon chrétien? Je ne comprends pas. » « Vous voyez bien que nous sommes aux fruits, c'est une poire. Soyez sûr que Madame de Cambremer en a chez elle, car la comtesse d'Escarbagnas, qu'elle est, en avait. Monsieur Thibaudier la lui envoie, et elle dit « Voilà du bon chrétien qui est fort beau. » « Non, je ne savais pas. » « Je vois, du reste, que vous ne savez rien, si vous n'avez même pas lu Molière. » « Eh bien, puisque vous ne devez pas savoir commander plus que le reste, demandez tout simplement une poire qu'on recueille justement près d'ici, la Louise Bonne d'Avranches. » « Là ? Attendez, puisque vous êtes si gauche, je vais moi-même en demander d'autres, que j'aime mieux. Maître d'hôtel, avez-vous de la doyenné des comices ? Charlie, vous devriez lire la page ravissante qu'a écrite sur cette poire la duchesse Émilie de Clermont-Tonnerre. Non, monsieur, je n'en ai pas. Avez-vous du Triomphe de Jodoigne? Non, monsieur. De la Virginie d'Allée? De la Passe Colmar? Non? Eh bien, puisque vous n'avez rien, nous allons partir. La duchesse d'Angoulême n'est pas encore mûre. Allons, Charlie, partons. Malheureusement, pour Monsieur de Charlus, son manque de bon sens, peut-être la chasteté des rapports qu'il avait probablement avec Morel, le firent s'ingénier, dès cette époque, à combler le violoniste d'étranges bontés que celui-ci ne pouvait comprendre et auxquelles sa nature, folle dans son genre, mais ingrate et mesquine, ne pouvait répondre que par une sécheresse ou une violence toujours croissante, et qui plongeait Monsieur de Charlus, jadis si fier, maintenant tout timide, dans des accès de vrai désespoir. On verra comment, dans les plus petites choses, Morel, qui se croyait devenu un Monsieur de Charlus mille fois plus important, avait compris de travers, en les prenant à la lettre, les orgueilleux enseignements du baron quant à l'aristocratie. Disons simplement, pour l'instant, tandis qu'Albertine m'attend à Saint-Jean-de-la-Hèze, que s'il y avait une chose que Morel mit au-dessus de la noblesse, et cela était en son principe assez noble, surtout de quelqu'un dont le plaisir était d'aller chercher des petites filles, ni vues ni connues, avec le chauffeur. C'était sa réputation artistique et ce qu'on pouvait penser à la classe de violon. Sans doute, il était laid, que, parce qu'il sentait M. de Charlus tout à lui, il eut l'air de le renier, de se moquer de lui. De la même façon que, dès que j'eus promis le secret sur les fonctions de son père chez mon grand-oncle, il me traita de haut en bas. Mais, d'autre part, son nom d'artiste diplômé, Morel, lui paraissait supérieur à un nom. Et quand M. de Charlus, dans ses rêves de tendresse platonique, voulait lui faire prendre un titre de sa famille, Morel s'y refusait énergiquement. Quand Albertine trouvait plus sage de rester à Saint-Jean-de-la-Hèze pour peindre, je prenais l'auto, et ce n'était pas seulement à Gourville et à Féterne, mais à Saint-Mars-le-Vieux et jusqu'à Criquetot que je pouvais aller avant de revenir la chercher. Tout en feignant d'être occupée d'autre chose que d'elle et d'être obligée de la délaisser pour d'autres plaisirs, je ne pensais qu'à elle. Bien souvent, je n'allais pas plus loin que la grande plaine qui domine Gourville. Et comme elle ressemble un peu à celle qui commence au-dessus de Combray, dans la direction de mes églises, même à une assez grande distance d'Albertine, j'avais la joie de penser que, si mes regards ne pouvaient pas aller jusqu'à elle, portant plus loin qu'eux, cette puissante et douce brise marine qui passait à côté de moi devait dévaler, sans être arrêtée par rien, jusqu'à Kettholm, venir agiter les branches des arbres qui ensevelissent Saint-Jean-de-la-Hèze sous leur feuillage, en caressant la figure de mon ami, et jeter ainsi un double lien d'elle à moi dans cette retraite, indéfiniment agrandie, mais sans risque, comme dans ces jeux où deux enfants se trouvent par moments hors de la portée de la voix et de la vue l'un de l'autre, et où tout en étant éloignés, ils restent réunis. Je revenais par ces chemins d'où l'on aperçoit la mer, et où, autrefois, avant qu'elle apparût entre les branches, je fermais les yeux pour bien penser que ce que j'allais voir, c'était bien la plaintive aïeule de la terre, poursuivant, comme autant qu'il n'existait pas entre d'êtres vivants, sa démente et immémoriale agitation. Maintenant, il n'était plus pour moi que le moyen d'aller rejoindre Albertine, quand je les reconnaissais tout pareil, sachant jusqu'où ils allaient filer droit, où ils tourneraient. Je me rappelais que je les avais suivis en pensant à Mademoiselle de Stermaria, et aussi que la même hâte de retrouver Albertine, je l'avais eue à Paris en descendant les rues, par où passait Madame de Guermantes. Il prenait pour moi la monotonie profonde, la signification morale d'une sorte de ligne que suivait mon caractère. C'était naturel, et ce n'était pourtant pas indifférent. Il me rappelait que mon sort était de ne poursuivre que des fantômes, des êtres dont la réalité, pour une bonne part, était dans mon imagination. Il y a des êtres, en effet, et ça avait été dès la jeunesse mon cas, pour qui tout ce qui a une valeur fixe, constatable par d'autres, la fortune, le succès, les hautes situations, ne compte pas. Ce qu'il leur faut, ce sont des fantômes. Ils y sacrifient tout le reste, mettent tout en œuvre, font tout servir à rencontrer tel fantôme. Mais celui-ci ne tarde pas à s'évanouir. Alors, on court après tel autre, quitte à revenir ensuite au premier. Ce n'était pas la première fois que je recherchais Albertine, la jeune fille vue la première année devant la mer. D'autres femmes, il est vrai, avaient été intercalées entre Albertine, aimée la première fois, et celle que je ne quittais guère en ce moment. D'autres femmes, notamment la duchesse de Guermantes. Mais, dira-t-on, pourquoi se donner tant de soucis au sujet de Gilberte? Prendre tant de peine pour madame de Guermantes, si, devenue l'amie de celle-ci, c'est à seule fin de n'y plus penser, mais seulement à Albertine. Swann, avant sa mort, aurait pu répondre, lui qui avait été amateur de fantômes. De fantômes poursuivis, oubliés, recherchés à nouveau, quelquefois pour une seule entrevue, et afin de toucher à une vie irréelle, laquelle aussitôt s'enfuyait. Ces chemins de Balbec étaient pleins. En pensant que leurs arbres, poiriers, pommiers, tamaris, me survivraient, il me semblait recevoir d'eux le conseil de me mettre enfin au travail pendant que n'avait pas encore sonné l'heure du repos éternel. Je descendais de voiture à Keteholm, courais dans la raide cavée, passais le ruisseau sur une planche et trouvais Albertine qui peignait devant l'église, tout en clocheton, épineuse et rouge, fleurissant comme un rosier. Le tympan seul était uni, et à la surface riante de la pierre affleuraient des anges qui continuaient, devant notre couple du XXe siècle, à célébrer, cierges en main, les cérémonies du XIIIe. C'était eux dont Albertine cherchait à faire le portrait sur sa toile préparée, et, imitant Elstir, elle donnait de grands coups de pinceau, tâchant d'obéir au noble rythme qui faisait, lui avait dit le grand maître, ces anges-là si différents de tous ceux qu'il connaissait. Puis elle reprenait ses affaires. Appuyés l'un sur l'autre, nous remontions la cavée, laissant la petite église aussi tranquille que si elle ne nous avait pas vus. Écoutez le bruit perpétuel du ruisseau. Bientôt, l'auto filait, nous faisait prendre pour le retour un autre chemin qu'à l'aller. Nous passions devant Marcouville l'orgueilleuse. Sur son église, moitié neuve, moitié restaurée, le soleil déclinant étendait sa patine aussi belle que celle des siècles. À travers elle, les grands bas-reliefs semblaient n'être vus que sous une couche fluide, moitié liquide, moitié lumineuse. La Sainte Vierge, Sainte Élisabeth, Saint Joachim nageaient encore dans l'impalpable remous, presque à sec, à fleur d'eau ou à fleur de soleil. Surgissant dans une chaude poussière, les nombreuses statues modernes se dressaient sur des colonnes jusqu'à mi-hauteur des voiles dorées du couchant. Devant l'église, un grand cyprès semblait dans une sorte d'enclos consacré. Nous descendions un instant pour le regarder et faisions quelques pas. Tout autant que de ses membres, Albertine avait une conscience directe de sa toque de paille d'Italie et de l'écharpe de soie, qui n'était pas pour elle le siège de moindre sensation de bien-être, et recevait d'elle, tout en faisant le tour de l'église, un autre genre d'impulsion, traduite par un contentement inerte, mais auquel je trouvais de la grâce. Écharpe et toque, qui n'étaient qu'une partie récente, adventice de mon amie, mais qui m'était déjà chère et dont je suivais des yeux le sillage le long du cyprès dans l'air du soir. Elle-même ne pouvait le voir, mais se doutait que ses élégances faisaient bien, car elle me souriait, tout en harmonisant le port de sa tête avec la coiffure qui la complétait. « Elle ne me plaît pas, elle est restaurée, » me dit-elle en me montrant l'église, et se souvenant de ce qu'Elstir lui avait dit sur la précieuse, sur l'inimitable beauté des vieilles pierres. Albertine savait reconnaître tout de suite une restauration. On ne pouvait que s'étonner de la sûreté de goût qu'elle avait déjà en architecture, au lieu du déplorable qu'elle gardait en musique. Pas plus qu'Elstir, je n'aimais cette église. C'est sans me faire plaisir que sa façade ensoleillée était venue se poser devant mes yeux, et je n'étais descendu la regarder que pour être agréable à Albertine. Et pourtant, je trouvais que le grand impressionniste était en contradiction avec lui-même. Pourquoi ce fétichisme attaché à la valeur architecturale objective sans tenir compte de la transfiguration de l'église dans le couchant? Non, décidément, me dit Albertine, je ne l'aime pas. J'aime son nom d'orgueilleuse. Mais ce qu'il faudra penser à demander à Brichot, c'est pourquoi Saint-Mars s'appelle le Vêtu. On ira la prochaine fois, n'est-ce pas ? Me disait-elle en me regardant de ses yeux noirs, sur lesquels sa toque était abaissée, comme autrefois son petit polo. Son voile flottait. Je remontais en auto avec elle, heureux que nous dussions le lendemain aller ensemble à Saint-Mars, dont, par ces temps ardents où on ne pensait qu'au bain, les deux antiques clochers d'un rose saumon, aux tuiles en losange, légèrement infléchis et comme palpitants, avaient l'air de vieux poissons aigus, imbriqués d'écailles, moussus et roux, qui, sans avoir l'air de bouger, s'élevaient dans une eau transparente et bleue. En quittant Marcouville, pour raccourcir, nous bifurquions à une croisée de chemin où il y a une ferme. Quelquefois, Albertine y faisait arrêter et me demandait d'aller seule chercher, pour qu'elle pût le boire dans la voiture, du calvados ou du cidre, qu'on assurait n'être pas mousseux et par lequel nous étions tout arrosés. Nous étions pressés l'un contre l'autre. Les gens de la ferme apercevaient à peine Albertine dans la voiture fermée. Je leur rendais les bouteilles, nous repartions, comme afin de continuer cette vie à nous deux, cette vie d'amants qu'ils pouvaient supposer que nous avions, et dont cet arrêt pour boire n'eût été qu'un moment insignifiant. Supposition qui eût paru d'autant moins invraisemblable si on nous avait vus après qu'Albertine avait bu sa bouteille de cidre. Elle semblait alors, en effet, ne plus pouvoir supporter entre elle et moi un intervalle qui d'habitude ne la gênait pas. Sous sa jupe de toile, ses jambes se serraient contre mes jambes. Elle approchait de mes joues, ses joues qui étaient devenues blêmes, chaudes et rouges aux pommettes, avec quelque chose d'ardent et de fané, comme en ont les filles de faubourg. À ces moments-là, presque aussi vite que de personnalité, elle changeait de voix, perdait la sienne pour en prendre une autre, enrouée, hardie, presque crapuleuse. Le soir tombait. Quel plaisir de la sentir contre moi, avec son écharpe et sa toque, me rappelant que c'est ainsi toujours, côte à côte, qu'on rencontre ceux qui s'aiment. J'avais peut-être de l'amour pour Albertine, mais n'osant pas le lui laisser apercevoir, bien que, s'il existait en moi, ce ne put être que comme une vérité sans valeur, jusqu'à ce qu'on ait pu la contrôler par l'expérience. Or, il me semblait irréalisable et hors du plan de la vie. Quant à ma jalousie, elle me poussait à quitter le moins possible Albertine, bien que je susse qu'elle ne guérirait tout à fait qu'en me séparant d'elle à jamais. Je pouvais même l'éprouver auprès d'elle, mais alors m'arrangeais pour ne pas laisser se renouveler la circonstance qui l'avait éveillée en moi. C'est ainsi qu'un jour de beau temps, nous allâmes déjeuner à Rivebelle. Les grandes portes vitrées de la salle à manger de ce hall en forme de couloir, qui servait pour l'été, étaient ouvertes de plein pied avec les pelouses dorées par le soleil, et desquels le vaste restaurant lumineux semblait faire partie. Le garçon, à la figure rose, aux cheveux noirs tordus comme une flamme, s'élançait dans toute cette vaste étendue moins vite qu'autrefois, car il n'était plus commis, mais chef de rang. Néanmoins, à cause de son activité naturelle, parfois au loin dans la salle à manger, parfois plus près, mais au dehors, servant des clients qui avaient préféré déjeuner dans le jardin, on l'apercevait tantôt ici, tantôt là, comme des statues successives d'un jeune dieu courant, les unes à l'intérieur, d'ailleurs bien éclairées, d'une demeure qui se prolongeait en gazon vert, tantôt sous les feuillages, dans la clarté de la vie en plein air. Il fut un moment à côté de nous. Albertine répondit distraitement à ce que je lui disais. Elle le regardait avec des yeux agrandis. Pendant quelques minutes, je sentis qu'on peut être près de la personne qu'on aime et cependant ne pas la voir avec soi. ils avaient l'air d'être dans un tête-à-tête mystérieux, rendu muet par ma présence, et suite peut-être de rendez-vous anciens que je ne connaissais pas, ou seulement d'un regard qu'il lui avait jeté, et dont j'étais le tiers gênant, et de qui on se cache. Même quand, rappelé avec violence par son patron, il se fut éloigné, Albertine, tout en continuant à déjeuner, n'avait plus l'air de considérer le restaurant et les jardins que comme une piste illuminée où apparaissait çà et là, dans des décors variés, le dieu coureur aux cheveux noirs. Un instant, je m'étais demandé si, pour le suivre, elle n'allait pas me laisser seule à ma table. Mais dès les jours suivants, je commençais à oublier pour toujours cette impression pénible, car j'avais décidé de ne jamais retourner à Rivebelle. J'avais fait promettre à Albertine, qui m'assura y être venue pour la première fois, qu'elle n'y retournerait jamais. Et je niais que le garçon aux pieds agiles n'eût eu Dieu que pour elle, afin qu'elle ne crût pas que ma compagnie l'avait privée d'un plaisir. Il m'arriva parfois de retourner à Rivebelle, mais seule, de trop boire, comme j'y avais déjà fait. Tout en vidant une dernière coupe, je regardais une rosace peinte sur le mur blanc. Je reportais sur elle le plaisir que j'éprouvais. Elle seule au monde existait pour moi. Je la poursuivais, la touchais et la perdais tour à tour de mon regard fuyant. Et j'étais indifférent à l'avenir, me contentant de ma rosace comme un papillon qui tourne autour d'un papillon posé, avec lequel il va finir sa vie dans un acte de volupté suprême. Le moment était peut-être particulièrement bien choisi pour renoncer à une femme à qui aucune souffrance bien récente et bien vive ne m'obligeait à demander ce baume contre un mal que possèdent celles qui l'ont causé. J'étais calmée par ces promenades mêmes qui, bien que je ne les considérasse au moment que comme une attente d'un lendemain qui lui-même, malgré le désir qu'il m'inspirait, ne devait pas être différent de la veille, avait le charme d'être arrachés au lieu où s'était trouvée jusque-là Albertine et où je n'étais pas avec elle, chez sa tante, chez ses amis. Charme non d'une joie positive, mais seulement de l'apaisement d'une inquiétude, et bien fort pourtant. Car à quelques jours de distance, quand je repensais à la ferme devant laquelle nous avions bu du cidre, ou simplement aux quelques pas que nous avions faits devant Saint-Mars le Vêtu, me rappelant qu'Albertine marchait à côté de moi sous sa toque, le sentiment de sa présence ajoutait tout d'un coup une telle vertu à l'image indifférente de l'église neuve, qu'au moment où la façade ensoleillée venait se poser ainsi d'elle-même dans mon souvenir, c'était comme une grande compresse calmante qu'on eût appliquée à mon cœur. Je déposai Albertine à Parville, mais pour la retrouver le soir et aller m'étendre à côté d'elle dans l'obscurité sur la grève. Sans doute je ne la voyais pas tous les jours, mais pourtant je pouvais me dire, si elle racontait l'emploi de son temps, de sa vie, c'est encore moi qui y tiendrais le plus de place. Et nous passions ensemble de longues heures de suite qui mettaient dans mes journées un enivrement si doux que, même quand, à Parville, elle sautait de l'auto que j'allais lui renvoyer une heure après, je ne me sentais pas plus seule dans la voiture que si, avant de la quitter, elle y eût laissé des fleurs. J'aurais pu me passer de la voir tous les jours. J'allais la quitter heureux, je sentais que l'effet calmant de ce bonheur pouvait se prolonger plusieurs jours. Mais alors j'entendais Albertine, en me quittant, dire à sa tante ou à une amie « Alors, demain à 8h30, il ne faut pas être en retard, ils seront prêts dès 8h15. » La conversation d'une femme qu'on aime ressemble à un sol qui recouvre une eau souterraine et dangereuse. On sent à tout moment derrière les mots la présence, le froid pénétrant d'une nappe invisible. On aperçoit, çà et là, son suintement perfide, mais elle-même reste cachée. aussitôt la phrase d'Albertine entendue, mon calme était détruit. Je voulais lui demander de la voir le lendemain matin, afin de l'empêcher d'aller à ce mystérieux rendez-vous de 8h30 dont on avait parlé devant moi qu'à mots couverts. Elle m'eût sans doute obéi les premières fois, regrettant pourtant de renoncer à ses projets. Puis elle eût découvert mon besoin permanent de les déranger. J'eusse été celui pour qui l'on se cache de tout. Et d'ailleurs, il est probable que ces fêtes, dont j'étais exclu, consistaient en fort peu de choses, et que c'était peut-être par peur que je trouvasse telle invitée vulgaire ou ennuyeuse qu'on ne me conviait pas. Malheureusement, cette vie si mêlée à celle d'Albertine n'exerçait pas d'action que sur moi. Elle me donnait du calme, elle causait à ma mère des inquiétudes dont la confession le détruisit. Comme je rentrais content, décidé à terminer d'un jour à l'autre une existence dont je croyais que la fin dépendait de ma seule volonté, ma mère me dit, entendant que je faisais dire au chauffeur d'aller chercher Albertine, « Comme tu dépenses de l'argent !» Françoise, dans son langage simple et expressif, disait avec plus de force « L'argent file !»« Tâche !» continua maman, « de ne pas devenir comme Charles de Sévigné, dont sa mère disait « Sa main est un creuset où l'argent se fond. » Et puis je crois que tu es vraiment assez sorti avec Albertine. Je t'assure que c'est exagéré, que même pour elle cela peut sembler ridicule. J'ai été enchantée que cela te distrait. Je ne te demande pas de ne plus la voir, mais enfin, qu'il ne soit pas impossible de vous rencontrer l'un sans l'autre. » Ma vie avec Albertine, vie dénuée de grands plaisirs, au moins de grands plaisirs perçus, cette vie que je comptais changer d'un jour à l'autre, en choisissant une heure de calme, me redevint tout d'un coup pour un temps nécessaire, quand, par ces paroles de maman, elle se trouva menacée. Je dis à ma mère que ces paroles venaient de retarder de 2 mois peut-être la décision qu'elle demandait, et qui, sans elle, eût été prise avant la fin de la semaine. Maman se mit à rire, pour ne pas m'attrister, de l'effet qu'avaient produit instantanément ses conseils, et me promit de ne pas m'en reparler pour ne pas empêcher que renaquît ma bonne intention. Mais depuis la mort de ma grand-mère, chaque fois que maman se laissait aller à rire, le rire commençait à s'arrêter net, et s'achevait sur une expression presque sanglotante de souffrance, soit par le remords d'avoir pu un instant oublier, soit par la recrudescence dont cet oubli si bref avait ravivé encore sa cruelle préoccupation. Mais à celle que lui causait le souvenir de ma grand-mère, installée en ma mère comme une idée fixe, je sentis que cette fois s'en ajoutait une autre, qui avait trait à moi, à ce que ma mère redoutait des suites de mon intimité avec Albertine. Intimité qu'elle n'osa pourtant pas entraver à cause de ce que je venais de lui dire. Mais elle ne parut pas persuadée que je ne me trompais pas. Elle se rappelait pendant combien d'années ma grand-mère et elle ne m'avaient plus parlé de mon travail et d'une règle de vie plus hygiénique que, disais-je, l'agitation où me mettaient leurs exhortations m'empêchait seule de commencer, et que, malgré leur silence obéissant, je n'avais pas poursuivi. Après le dîner, l'auto ramenait Albertine. Il faisait encore un peu jour, l'air était moins chaud, mais, après une brûlante journée, nous rêvions tous deux de fraîcheurs inconnues. Alors, à nos yeux enfiévrés, la lune, toute étroite, parut d'abord, tel le soir où j'étais allée chez la princesse de Guermantes et où Albertine m'avait téléphoné. Comme la légère et mince pelure, puis comme le frais quartier d'un fruit qu'un invisible couteau commençait à écorcer dans le ciel. Quelquefois aussi, c'était moi qui allais chercher mon amie un peu plus tard. Alors elle devait m'attendre devant les arcades du marché à Maineville. Au premier moment, je ne la distinguais pas. Je m'inquiétais déjà qu'elle ne dût pas venir, qu'elle eût mal compris. Alors je la voyais, dans sa blouse blanche à pois bleus, sauter à côté de moi dans la voiture, avec le bond léger, plus d'un jeune animal que d'une jeune fille. Et c'est comme une chienne encore qu'elle commençait aussitôt à me caresser sans fin. Quand la nuit était tout à fait venue, et que, comme me disait le directeur de l'hôtel, le ciel était tout parcheminé d'étoiles, et si nous n'allions pas nous promener en forêt avec une bouteille de champagne, sans nous inquiéter des promeneurs déambulant encore sur la digue faiblement éclairée, mais qui n'auraient rien distingué à deux pas sur le sable noir, nous nous étendions en contrebas des dunes. Ce même corps, dans la souplesse duquel vivait toute la grâce féminine, marine et sportive, des jeunes filles que j'avais vues passer la première fois devant l'horizon du flot. Je le tenais serré contre le mien, sous une même couverture, tout au bord de la mer immobile, divisée par un rayon tremblant. Et nous l'écoutions, sans nous lasser, et avec le même plaisir, soit quand elle retenait sa respiration, assez longtemps suspendue pour qu'on crût le reflux arrêté, soit quand elle exhalait enfin à nos pieds le murmure attendu et retardé. Je finissais par ramener Albertine à Parville. Arrivé devant chez elle, il fallait interrompre nos baisers, de peur qu'on ne nous vît. N'ayant pas envie de se coucher, elle revenait avec moi jusqu'à Balbec, d'où je la ramenais une dernière fois à Parville. Les chauffeurs de ces premiers temps de l'automobile étaient des gens qui se couchaient à n'importe quelle heure. Et de fait, je ne rentrais à Balbec qu'avec la première humidité matinale, seule cette fois, mais encore tout entourée de la présence de mon ami, gorgée d'une provision de baisers longue à épuiser. Sur ma table, je trouvais un télégramme ou une carte postale. C'était d'Albertine encore. Elle les avait écrits à Kite Holm pendant que j'étais partie seule en auto, et pour me dire qu'elle pensait à moi. Je me mettais au lit en les relisant. Alors, j'apercevais au-dessus des rideaux l'arrêt du grand jour, et je me disais que nous devions nous aimer tout de même pour avoir passé la nuit à nous embrasser. Quand, le lendemain matin, je voyais Albertine sur la digue, j'avais si peur qu'elle me répondît qu'elle n'était pas libre ce jour-là et ne pouvait acquiescer à ma demande de nous promener ensemble, que, cette demande, je retardais le plus que je pouvais de la lui adresser. J'étais d'autant plus inquiet qu'elle avait l'air froid, préoccupé. Des gens de sa connaissance passaient. Sans doute avait-elle formé pour l'après-midi des projets dont j'étais exclu. Je la regardais. Je regardais ce corps charmant, cette tête rose d'Albertine, dressant en face de moi l'énigme de ses intentions, la décision inconnue qui devait faire le bonheur ou le malheur de mon après-midi. C'était tout un état d'âme, tout un avenir d'existence qui avait pris devant moi la forme allégorique et fatale d'une jeune fille. Et quand enfin je me décidais, quand, de l'air le plus indifférent que je pouvais, je demandais « Est-ce que nous nous promenons ensemble, tantôt et ce soir ?» Et qu'elle me répondait « Très volontiers !» Alors, tout le brusque remplacement dans la figure rose de ma longue inquiétude par une quiétude délicieuse, me rendait encore plus précieuses ces formes auxquelles je devais perpétuellement le bien-être, l'apaisement qu'on éprouve après qu'un orage a éclaté. Je me répétais « Comme elle est gentille, quel être adorable !» dans une exaltation moins féconde que celle due à l'ivresse, à peine plus profonde que celle de l'amitié, mais très supérieure à celle de la vie mondaine. Nous ne décommandions l'automobile que les jours où il y avait un dîner chez les Verdurin, et ceux où, Albertine n'étant pas libre de sortir avec moi, j'en avais profité pour prévenir les gens qui désiraient me voir que je resterais à Balbec. Je donnais à Saint-Loup autorisation de venir ces jours-là, mais ces jours-là seulement. car une fois qu'il était arrivé à l'improviste, j'avais préféré me priver de voir Albertine, plutôt que de risquer qu'il la rencontrât. Que fut compromis l'état de calme heureux où je me trouvais depuis quelque temps, et que fut ma jalousie renouvelée. Et je n'avais été tranquille qu'une fois Saint-Loup reparti. Aussi s'astreignait-il avec regret, mais scrupule, à ne jamais venir à Balbec sans appel de ma part. Jadis, songeant avec envie aux heures que Madame de Guermantes passait avec lui, j'attachais un tel prix à le voir. Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous. Dans la marche insensible, mais éternelle du monde, nous les considérons comme immobiles, dans un instant de vision trop court pour que le mouvement qui les entraîne soit perçu. Mais nous n'avons qu'à choisir dans notre mémoire deux images prises d'eux à des moments différents, assez rapprochées cependant pour qu'ils n'aient pas changé en eux-mêmes, du moins sensiblement, et la différence des deux images mesure le déplacement qu'ils ont opéré par rapport à nous. Il m'inquiéta affreusement en me parlant des Verdurin. J'avais peur qu'il ne me demandât à y être reçu, ce qui eût suffi, à cause de la jalousie que je n'eusse cessé de ressentir, à gâter tout le plaisir que j'y trouvais avec Albertine. Mais heureusement, Robert m'avoua, tout au contraire, qu'il désirait par-dessus tout ne pas les connaître. « Non, me dit-il, je trouve ce genre de milieu cléricaux exaspérant. » Je ne compris pas d'abord l'adjectif « clérical » appliqué aux Verdurin, mais la fin de la phrase de Saint-Loup m'éclaira sa pensée, ses concessions à des modes de langage qu'on est souvent étonné de voir adoptés par des hommes intelligents. « Ce sont des milieux, me dit-il, où on fait tribu, où on fait congrégation et chapelle. Tu ne me diras pas que ce n'est pas une petite secte. On est tout miel pour les gens qui en sont. On n'a pas assez de dédain pour les gens qui n'en sont pas. La question n'est pas, comme pour Hamlet, d'être ou de ne pas être, mais d'en être ou de ne pas en être. Tu en es. Mon oncle Charlus en est. Que veux-tu ? Moi, je n'ai jamais aimé ça. Ce n'est pas ma faute. » Bien entendu, la règle que j'avais imposée à Saint-Loup de ne me venir voir que sur un appel de moi, je l'ai dictée aussi stricte pour n'importe laquelle des personnes avec qui je m'étais peu à peu liée à la Raspelière, à Féterne, à Mont-sur-Vent et ailleurs. Et quand j'apercevais de l'hôtel la fumée du train de 3 heures qui, dans l'anfractuosité des falaises de Parville, laissait son panache stable, qui restait longtemps accroché au flanc des pentes vertes, je n'avais aucune hésitation sur le visiteur qui allait venir goûter avec moi et m'était encore, à la façon d'un dieu, dérobé sous ce petit nuage. Je suis obligé d'avouer que ce visiteur, préalablement autorisé par moi à venir, ne fut presque jamais sa niette, et je me le suis bien souvent reproché. Mais la conscience que sa niette avait d'ennuyer, naturellement encore bien plus en venant faire une visite qu'en racontant une histoire, faisait que, bien qu'il fût plus instruit, plus intelligent et meilleur que bien d'autres, il semblait impossible d'éprouver auprès de lui non seulement aucun plaisir, mais autre chose qu'un spleen presque intolérable, et qui vous gâtait votre après-midi. Probablement, si sa niette avait avoué franchement cet ennui qu'il craignait de causer, on n'eût pas redouté ses visites. L'ennui est un des maux les moins graves qu'on ait à supporter. Le sien n'existait peut-être que dans l'imagination des autres, ou lui avait été inoculé grâce à une sorte de suggestion par eux, laquelle avait trouvé prise sur son agréable modestie. Mais il tenait tant à ne pas laisser voir qu'il n'était pas recherché, qu'il n'osait pas s'offrir. Certes, il avait raison de ne pas faire comme les gens qui sont si contents de donner des coups de chapeau dans un lieu public, que, ne vous ayant pas vu depuis longtemps et vous apercevant dans une loge avec des personnes brillantes qu'ils ne connaissent pas, ils vous jettent un bonjour furtif et retentissant en s'excusant sur le plaisir, sur l'émotion qu'ils ont eue à vous apercevoir, à constater que vous renouez avec les plaisirs, que vous avez bonne mine, etc. Mais sa niette, au contraire, manquait par trop d'audace. Il aurait pu, chez Madame Verdurin ou dans le petit tram, me dire qu'il aurait grand plaisir à venir me voir à Balbec, s'il ne craignait pas de me déranger. Une telle proposition ne m'eût pas effrayée. Au contraire, il n'offrait rien. Mais, avec un visage torturé et un regard aussi indestructible qu'un émail cuit, mais dans la composition duquel entrait, avec un désir pantelant de vous voir, à moins qu'il ne trouvât quelqu'un d'autre de plus amusant, la volonté de ne pas laisser voir ce désir, il me disait d'un air détaché « Vous ne savez pas ce que vous faites ces jours-ci ? Parce que j'irai sans doute près de Balbec. Mais non, cela ne fait rien, je vous le demandais par hasard. » Cet air ne trompait pas, et les signes inverses, à l'aide desquels nous exprimons nos sentiments par leur contraire, sont d'une lecture si claire qu'on se demande comment il y a encore des gens qui disent par exemple « J'ai tant d'invitations que je ne sais où donner de la tête » pour dissimuler qu'ils ne sont pas invités. Mais de plus, cet air détaché, à cause probablement de ce qui entrait dans sa composition trouble, vous causait ce que n'eût jamais pu faire la crainte de l'ennui ou le franc aveu du désir de vous voir. C'est-à-dire cette espèce de malaise, de répulsion qui, dans l'ordre des relations de simple politesse sociale, est l'équivalent de ce qu'est, dans l'amour, l'offre déguisée que fait à une dame l'amoureux qu'elle n'aime pas, de la voir le lendemain, tout en protestant qu'il n'y tient pas. Ou même pas cette offre, mais une attitude de fausse froideur. Aussitôt, émané de la personne de sa niette, je ne sais quoi qui faisait qu'on lui répondait de l'air le plus tendre du monde « Non, malheureusement, cette semaine, je vous expliquerai. » Et je laissais venir, à la place, des gens qui étaient loin de le valoir, mais qui n'avaient pas son regard chargé de la mélancolie et sa bouche plissée de toute l'amertume de toutes les visites qu'il avait envie, en la leur taisant, de faire aux uns et aux autres. Malheureusement, il était bien rare que sa niette ne rencontrât pas dans le tortillard l'invité qui venait me voir. Si même celui-ci ne m'avait pas dit chez les Verdurin « N'oubliez pas que je vais vous voir jeudi !» Jour où j'avais précisément dit à sa niette ne pas être libre. De sorte qu'il finissait par imaginer la vie comme rempli de divertissements organisés à son insu, sinon même contre lui. D'autre part, comme on n'est jamais tout un, ce trop discret était maladivement indiscret. La seule fois où par hasard il vint me voir malgré moi, une lettre, je ne sais de qui, traînait sur la table. Au bout d'un instant, je vis qu'il n'écoutait que distraitement ce que je lui disais. La lettre, dont il ignorait complètement la provenance, le fascinait, et je croyais à tout moment que ses prunelles émaillées allaient se détacher de leur orbite pour rejoindre la lettre quelconque, mais que sa curiosité aimantait. On aurait dit un oiseau qui va se jeter fatalement sur un serpent. Finalement, il n'y put tenir, la changea de place d'abord, comme pour mettre de l'ordre dans ma chambre. Cela ne lui suffisant plus, il la prit, la tourna, la retourna, comme machinalement. Une autre forme de son indiscrétion, c'était que, rivé à vous, il ne pouvait partir. Comme j'étais souffrant ce jour-là, je lui demandai de reprendre le train suivant et de partir dans une demi-heure. Il ne doutait pas que je souffrisse, mais me répondit « Je resterai une heure un quart et après je partirai. » Depuis, j'ai souffert de ne pas lui avoir dit, chaque fois où je le pouvais, de venir. Qui sait, peut-être eussé-je conjuré son mauvais sort, d'autres l'eussent invité pour qui il m'eût immédiatement lâché, de sorte que mes invitations auraient eu le double avantage de lui rendre la joie et de me débarrasser de lui. Les jours qui suivaient ceux où j'avais reçu, je n'attendais naturellement pas de visite. Et l'automobile revenait nous chercher, Albertine et moi. Et quand nous rentrions, Aimé, sur le premier degré de l'hôtel, ne pouvait s'empêcher, avec des yeux passionnés, curieux et gourmands, de regarder quel pourboire je donnais au chauffeur. J'avais beau enfermer ma pièce ou mon billet dans ma main close, les regards d'Aimé écartaient mes doigts. Il détournait la tête au bout d'une seconde, car il était discret, bien élevé, et même se contentait lui-même de bénéfices relativement petits. Mais l'argent qu'un autre recevait excitait en lui une curiosité incompressible et lui faisait venir l'eau à la bouche. Pendant ces courts instants, il avait l'air attentif et fiévreux d'un enfant qui lit un roman de Jules Verne, ou d'un dîneur assis non loin de vous dans un restaurant, et qui, voyant qu'on vous découpe un faisan que lui-même ne peut pas ou ne veut pas s'offrir, délaisse un instant ses pensées sérieuses pour attacher sur la volaille un regard que font sourire l'amour et l'envie. Ainsi se succédaient quotidiennement ses promenades en automobile. Mais une fois, au moment où je remontais par l'ascenseur, le lift me dit « Ce monsieur est venu, il m'a laissé une commission pour vous ». Le lift me dit ces mots d'une voix absolument cassée et en me toussant et crachant à la figure. « Quel rhume que je tiens » ajouta-t-il, comme si je n'étais pas capable de m'en apercevoir tout seul. « Le docteur dit que c'est la coqueluche. » Et il recommença à tousser et à cracher sur moi. « Ne vous fatiguez pas à parler, » lui dis-je d'un air de bonté, lequel était fin. Je craignais de prendre la coqueluche, qui, avec ma disposition aux étouffements, m'eût été fort pénible. Mais il mit sa gloire, comme un virtuose qui ne veut pas se faire porter malade, à parler et à cracher tout le temps. « Non, ça ne fait rien, » dit-il. « Pour vous, peut-être, pensais-je, mais pas pour moi. Du reste, je vais bientôt rentrer à Paris. Tant mieux, pourvu qu'il ne me la passe pas avant. « Il paraît, » reprit-il, « que Paris, c'est très superbe. Cela doit être encore plus superbe qu'ici et qu'à Monte-Carlo. Quoique des chasseurs, même des clients, et jusqu'à des maîtres d'hôtel qui allaient à Monte-Carlo pour la saison, m'ont souvent dit que Paris était moins superbe que Monte-Carlo. Il se gourait peut-être. Et pourtant, pour être maître d'hôtel, il ne faut pas être un imbécile. Pour prendre toutes les commandes, retenir les tables, il en faut une tête. On m'a dit que c'était encore plus terrible que d'écrire des pièces et des livres. » Nous étions presque arrivés à mon étage quand le lift me fit redescendre jusqu'en bas parce qu'il trouvait que le bouton fonctionnait mal. Et en un clin d'œil, il l'arrangea. Je lui dis que je préférais remonter à pied, ce qui voulait dire, et caché, que je préférais ne pas prendre la coqueluche. Mais d'un accès de toux cordial et contagieux, le lift me rejeta dans l'ascenseur. « Ça ne risque plus rien, maintenant, j'ai arrangé le bouton. » Voyant qu'il ne cessait pas de parler, préférant connaître le nom du visiteur et la commission qu'il avait laissée au parallèle entre les beautés de Balbec, Paris et Monte-Carlo, je lui dis, comme un ténor qui vous excède avec Benjamin Godard, chantez-moi de préférence du Debussy. Mais qui est-ce qui est venu pour me voir? C'est le monsieur avec qui vous êtes sorti hier. Je vais aller chercher sa carte qui est chez mon concierge. Comme, la veille, j'avais déposé Robert de Saint-Loup à la station de Doncières avant d'aller chercher Albertine, je crus que le lift voulait parler de Saint-Loup. Mais c'était le chauffeur. Et, en le désignant par ces mots, « Le monsieur avec qui vous êtes sorti !» Il m'apprenait par la même occasion qu'un ouvrier est tout aussi bien un monsieur que ne l'est un homme du monde. Le son de mots seulement. Car, pour la chose, je n'avais jamais fait de distinction entre les classes. Et si j'avais, à entendre appeler un chauffeur un monsieur, le même étonnement que le comte X, qui ne l'était que depuis 8 jours et à qui, ayant dit « La comtesse a l'air fatiguée », je fis tourner la tête derrière lui pour voir de qui je voulais parler, et c'était simplement par manque d'habitude du vocabulaire. Je n'avais jamais fait de différence entre les ouvriers, les bourgeois et les grands seigneurs, et j'aurais pris indifféremment les uns et les autres pour amis. Avec une certaine préférence pour les ouvriers, et après cela pour les grands seigneurs, non par goût, mais sachant qu'on peut exiger d'eux plus de politesse envers les ouvriers qu'on ne l'obtient de la part des bourgeois. Soit que les grands seigneurs ne dédaignent pas les ouvriers, comme font les bourgeois, ou bien parce qu'ils sont volontiers polis envers n'importe qui, comme les jolies femmes heureuses de donner un sourire qu'elles savent accueillir avec tant de joie. Je ne peux, du reste, pas dire que cette façon que j'avais de mettre les gens du peuple sur le pied d'égalité avec les gens du monde, si elle fut très bien admise de ceci, satisfit en revanche toujours pleinement ma mère. Non qu'humainement elle fît une différence quelconque entre les êtres, et si jamais Françoise avait du chagrin ou était souffrante, elle était toujours consolée et soignée par maman avec la même amitié, avec le même dévouement que sa meilleure amie. Mais ma mère était trop la fille de mon grand-père pour ne pas faire socialement acception des castes. Les gens de Combray avaient beau avoir du cœur, de la sensibilité, acquérir les plus belles théories sur l'égalité humaine. Ma mère, quand un valet de chambre s'émancipait, disait une fois « vous » et glissait insensiblement à ne plus me parler à la troisième personne, avait de ces usurpations le même mécontentement qui éclate dans les « mémoires de Saint-Simon » chaque fois qu'un seigneur, qui n'y a pas droit, saisit un prétexte de prendre la qualité d'altesse dans un acte authentique, ou de ne pas rendre au duc ce qu'il leur devait et ce dont peu à peu ils se dispensent. Il y avait un esprit de Combray si réfractaire qu'il faudra des siècles de bonté. Celle de ma mère était infinie. De théories égalitaires pour arriver à le dissoudre. Je ne peux pas dire que chez ma mère, certaines parcelles de cet esprit ne fussent pas restées insolubles. Elle eût donné aussi difficilement la main à un valet de chambre qu'elle lui donnait aisément 10 francs, lesquels lui faisaient du reste beaucoup plus de plaisir. Pour elle, qu'elle l'avouât ou non, les maîtres étaient les maîtres, et les domestiques étaient les gens qui mangeaient à la cuisine. Quand elle voyait un chauffeur d'automobile dîner avec moi dans la salle à manger, elle n'était pas absolument contente et me disait « Il me semble que tu pourrais avoir mieux comme ami qu'un mécanicien. » Comme elle aurait dit s'il se fût agi de mariage, « Tu pourrais trouver mieux comme parti. » Le chauffeur, heureusement je ne songeais jamais à inviter celui-là, était venu me dire que la compagnie d'auto qu'il avait envoyée à Balbec pour la saison lui faisait rejoindre Paris dès le lendemain. Cette raison, d'autant plus que le chauffeur était charmant et s'exprimait si simplement qu'on eût toujours dit parole d'évangile, nous sembla devoir être conforme à la vérité. Elle ne l'était qu'à demi. Il n'y avait en effet plus rien à faire à Balbec, et en tout cas, la compagnie, n'ayant qu'à demi confiance dans la véracité du jeune évangéliste, appuyé sur sa roue de consécration, désirait qu'il revînt au plus vite à Paris. Et en effet, si le jeune apôtre accomplissait miraculeusement la multiplication des kilomètres quand il les comptait à monsieur de Charlus, en revanche, dès qu'il s'agissait de rendre compte à sa compagnie, il divisait par 6 ce qu'il avait gagné. En conclusion de quoi, la compagnie, pensant ou bien que personne ne faisait plus de promenade à Balbec, ce que la saison rendait vraisemblable, soit qu'elle était volée, trouvait dans l'une et l'autre hypothèse que le mieux était de le rappeler à Paris, où on ne faisait d'ailleurs pas grand-chose. Le désir du chauffeur était d'éviter, si possible, la morte saison. J'ai dit ce que j'ignorais alors et ce dont la connaissance m'eût évité bien des chagrins, qu'ils étaient très liés, sans qu'ils eussent jamais l'air de se connaître devant les autres, avec Morel. À partir du jour où ils furent appelés, sans savoir encore qu'il avait un moyen de ne pas partir, nous dûmes nous contenter pour nos promenades de louer une voiture, ou quelquefois, pour distraire Albertine, et comme elle aimait l'équitation, des chevaux de selle. Les voitures étaient mauvaises. « Quel taco !» disait Albertine. « J'aurais d'ailleurs souvent aimé d'y être seule. Sans vouloir me fixer une date, je souhaitais que prît fin cette vie à laquelle je reprochais de me faire renoncer, non pas même tant au travail qu'au plaisir. Pourtant, il arrivait aussi que les habitudes qui me retenaient fussent soudain abolies, le plus souvent quand quelque ancien moi, plein du désir de vivre avec allégresse, remplaçait pour un instant le moi actuel. J'éprouvais notamment ce désir d'évasion un jour qu'ayant laissé Albertine chez sa tante, j'étais allée à cheval voir les vers du Rhin et que j'avais pris dans les bois une route sauvage dont il m'avait vanté la beauté. Épousant les formes de la falaise, tour à tour elle montait, puis, resserrée entre des bouquets d'arbres épais, elle s'enfonçait en gorge sauvage. Un instant, les rochers dénudés dont j'étais entourée, la mer qu'on apercevait par leurs déchirures, flottèrent devant mes yeux comme des fragments d'un autre univers. J'avais reconnu le paysage montagneux et marin qu'Elstir a donné pour cadre à ces deux admirables aquarelles. Poète rencontrant une muse, jeune homme rencontrant un centaure, que j'avais vu chez la duchesse de Guermantes. Leurs souvenirs replaçaient les lieux où je me trouvais tellement en dehors du monde actuel que je n'aurais pas été étonnée si, comme le jeune homme de l'âge antéhistorique que peint Elstir, j'avais, au cours de ma promenade, croisé un personnage mythologique. Tout à coup, mon cheval se cabra. Il avait entendu un bruit singulier. J'eus peine à le maîtriser et à ne pas être jeté à terre. Puis, je levai vers le point d'où semblait venir ce bruit, mes yeux pleins de larmes. Et je vis à une cinquantaine de mètres, au-dessus de moi, dans le soleil, entre deux grandes ailes d'acier étincelant qui l'emportaient, un être dont la figure peu distincte me parut ressembler à celle d'un homme. Je fus aussi ému que pouvait l'être un Grec qui voyait pour la première fois un demi-dieu. Je pleurais aussi, car j'étais prêt à pleurer, du moment que j'avais reconnu que le bruit venait d'au-dessus de ma tête. Les aéroplanes étaient encore rares à cette époque. À la pensée que ce que j'allais voir pour la première fois, c'était un aéroplane. Alors, comme quand on sent venir dans un journal une parole émouvante, je n'attendais que d'avoir aperçu l'avion pour fondre en larmes. Cependant, l'aviateur sembla hésiter sur sa voie. Je sentais ouverte devant lui, devant moi, si l'habitude ne m'avait pas fait prisonnier, toutes les routes de l'espace, de la vie. Il poussa plus loin, plana quelques instants au-dessus de la mer, puis, prenant brusquement son parti, semblant céder à quelque attraction inverse de celle de l'apesanteur, comme retournant dans sa patrie, d'un léger mouvement de ses ailes d'or, il piqua droit vers le ciel. Pour revenir au mécanicien, il demanda non seulement à Morel que les vers du Rhin remplaçassent leur break par une auto, ce qui, étant donné la générosité des vers du Rhin à l'égard des fidèles, était relativement facile. Mais, chose plus malaisée, leur principal cocher, le jeune homme sensible et porté aux idées noires, par lui, le chauffeur. Cela fut exécuté en quelques jours de la façon suivante. Morel avait commencé par faire voler au cocher tout ce qui lui était nécessaire pour atteler. Un jour, il ne trouvait pas le mort, un jour la gourmette. D'autres fois, c'était son coussin de siège qui avait disparu, jusqu'à son fouet, sa couverture, le martinet, l'éponge, la peau de chamois. Mais il s'arrangea toujours avec des voisins. Seulement, il arrivait en retard, ce qui agaçait contre lui Monsieur Verdurin et le plongeait dans un état de tristesse et d'idées noires. Le chauffeur, pressé d'entrer, déclara à Morel qu'il allait revenir à Paris. il fallait frapper un grand coup. Morel persuada au domestique de M. Verdurin que le jeune cocher avait déclaré qu'il les ferait tous tomber dans un guet-apens et se faisait fort d'avoir raison de six, et il leur dit qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Pour sa part, il ne pouvait pas s'en mêler, mais les prévenait afin qu'ils prissent les devants. Il fut convenu que, pendant que M. et Mme Verdurin et leurs amis seraient en promenade, ils tomberaient tous à l'écurie sur le jeune homme. Je rapporterai, bien que ce ne fût que l'occasion de ce qui allait avoir lieu, mais parce que les personnages m'ont intéressé plus tard, qu'il y avait ce jour-là un ami des Verdurin en villégiature chez eux, et à qui on voulait faire une promenade à pied avant son départ, fixée au soir même. Ce qui me surprit beaucoup quand on partit en promenade, c'est que ce jour-là, Morel, qui venait avec nous en promenade à pied, où il devait jouer du violon dans les arbres, me dit « Écoutez, j'ai mal au bras, je ne veux pas le dire à Madame Verdurin, mais priez-la d'emmener un de ses valets, par exemple Hausler, il portera mes instruments. » « Je crois qu'un autre serait mieux choisi, » répondis-je. « On a besoin de lui pour le dîner. » Une expression de colère passa sur le visage de Morel. « Mais non, je ne veux pas confier mon violon à n'importe qui. » Je compris plus tard la raison de cette préférence. Hausler était le frère très aimé du jeune cocher, et s'il était resté à la maison, aurait pu lui porter secours. Pendant la promenade, assez bas pour que Hausler aîné ne pût nous entendre, « Voilà un bon garçon, » dit Morel. « Du reste, son frère l'est aussi, s'il n'avait pas cette funeste habitude de boire. »« Comment boire ?» dit Madame Verdurin, pâlissant à l'idée d'avoir un cocher qui buvait. « Vous ne vous en apercevez pas. Je me dis toujours que c'est un miracle qu'il ne lui soit pas arrivé d'accident pendant qu'il vous conduisait. »« Mais il conduit donc d'autres personnes ?» Vous n'avez qu'à voir combien de fois il a versé. Il a aujourd'hui la figure pleine d'ecchymoses. Je ne sais pas comment il ne s'est pas tué. Il a cassé ses brancards. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, dit Madame Verdurin, tremblante à la pensée de ce qui aurait pu lui arriver à elle. Vous me désolez. Elle voulut abréger la promenade pour rentrer. Morel choisit un air de Bach avec des variations infinies pour la faire durer. Dès le retour, elle alla à la remise, vit le brancard neuf et Hausler en sang. Elle allait lui dire, sans lui faire aucune observation, qu'elle n'avait plus besoin de cocher et lui remettre de l'argent. Mais de lui-même, ne voulant pas accuser ses camarades à l'animosité de qui il attribuait rétrospectivement le vol quotidien de toutes les selles, etc., et voyant que sa patience ne conduisait qu'à se faire laisser pour mort sur le carreau, il demanda à s'en aller, ce qui arrangea tout. Le chauffeur entra le lendemain, et plus tard, Madame Verdurin, qui avait été obligée d'en prendre un autre, fut si satisfaite de lui qu'elle me le recommanda chaleureusement comme homme d'absolue confiance. Moi, qui ignorais tout, je le pris à la journée à Paris. Mais je n'ai que trop anticipé. Tout cela se retrouvera dès l'histoire d'Albertine. En ce moment, nous sommes à la Raspelière, où je viens dîner pour la première fois avec mon ami, et M. de Charlus avec Morel, fils supposé d'un intendant, qui gagnait 30 000 francs par an de fixe, avait une voiture et nombre de majordomes subalternes, de jardiniers, de régisseurs et de fermiers sous ses ordres. Mais puisque j'ai tellement anticipé, je ne veux cependant pas laisser le lecteur sous l'impression d'une méchanceté absolue qu'aurait eu Morel. Il était plutôt plein de contradictions, capable à certains jours d'une gentillesse véritable. Je fus naturellement bien étonné d'apprendre que le cocher avait été mis à la porte, et bien plus de reconnaître dans son remplaçant le chauffeur qui nous avait promenés, Albertine et moi. Mais il me débita une histoire compliquée, selon laquelle il était censé être rentré à Paris, d'où on l'avait demandé pour les Verts du Rhin, et je n'eus pas une seconde de doute. Le renvoi du cocher fut cause que Morel causa un peu avec moi, afin de m'exprimer sa tristesse relativement au départ de ce brave garçon. Du reste, même en dehors des moments où j'étais seul et où il bondissait littéralement vers moi avec une expansion de joie, Morel, voyant que tout le monde me faisait fête à la Raspelière et sentant qu'il s'excluait volontairement de la familiarité de quelqu'un qui était sans danger pour lui, puisqu'il m'avait fait couper les ponts et ôter toute possibilité d'avoir envers lui des airs protecteurs, que je n'avais d'ailleurs nullement songé à prendre, cessa de se tenir éloigné de moi. J'attribuais son changement d'attitude à l'influence de M. de Charlus, laquelle, en effet, le rendait sur certains points moins borné, plus artiste, mais sur d'autres, où il appliquait à la lettre les formules éloquentes, mensongères et d'ailleurs momentanées du maître, le bêtifiait encore davantage. Ce qu'avait pu lui dire M. de Charlus, ce fut, en effet, la seule chose que je supposais. Comment aurais-je pu deviner alors ce qu'on me dit ensuite, et dont je n'ai jamais été certain, les affirmations d'André sur tout ce qui touchait Albertine, surtout plus tard, m'ayant toujours semblé fort sujettes à caution, car, comme nous l'avons vu autrefois, elle n'aimait pas sincèrement mon amie et était jalouse d'elle. Ce qui, en tout cas, si c'était vrai, me fut remarquablement caché par tous les deux, qu'Albertine connaissait beaucoup Morel. La nouvelle attitude que, vers ce moment du renvoi du cocher, Morel adopta à mon égard, me permit de changer d'avis sur son compte. Je gardais de son caractère la vilaine idée que m'en avait fait concevoir la bassesse que ce jeune homme m'avait montrée quand il avait eu besoin de moi, suivi tout aussitôt le service rendu d'un dédain jusqu'à sembler ne pas me voir. À cela, il fallait l'évidence de ses rapports de vénalité avec M. de Charlus et aussi des instincts de bestialité sans suite dont la non-satisfaction, quand cela arrivait, ou les complications qu'ils entraînaient, causaient ces tristesses. Mais ce caractère n'était pas si uniformément laid et plein de contradictions. Il ressemblait à un vieux livre du Moyen-Âge, plein d'erreurs, de traditions absurdes, d'obscénités. Il était extraordinairement composite. J'avais cru d'abord que son art, où il était vraiment passé maître, lui avait donné des supériorités qui dépassaient la virtuosité de l'exécutant. Une fois que je disais mon désir de me mettre au travail, « Travaillez, devenez illustre, » me dit-il. « De qui est cela ? » lui demandai-je. « De Fontane, à Châteaubriand. » Il connaissait aussi une correspondance amoureuse de Napoléon. « Bien, » pensais-je, « il est lettré. » Mais cette phrase, qu'il avait lue je ne sais pas où, était sans doute la seule qu'il connût de toute la littérature ancienne et moderne, car il me la répétait chaque soir. Une autre, qu'il répétait davantage pour m'empêcher de rien dire de lui à personne, c'était celle-ci qu'il croyait également littéraire, qui est à peine française, ou du moins n'offre aucune espèce de sens, sauf peut-être pour un domestique cachotier. Méfions-nous des méfiants. Au fond, en allant de cette stupide maxime jusqu'à la phrase de Fontane à Châteaubriand, on eut parcouru toute une partie, variée mais moins contradictoire qu'il ne semble, du caractère de Morel. Ce garçon, qui, pour peu qu'il y trouvât de l'argent, eût fait n'importe quoi et sans remords, peut-être pas sans une contrariété bizarre, allant jusqu'à la surexcitation nerveuse, mais à laquelle le nom de remords irait fort mal. Qui eût, s'il y trouvait son intérêt, plongé dans la peine, voire dans le deuil, des familles entières, ce garçon qui mettait l'argent au-dessus de tout, et, sans parler de bonté, au-dessus des sentiments de simple humanité les plus naturels, ce même garçon mettait pourtant au-dessus de l'argent son diplôme de premier prix du conservatoire, et qu'on ne put tenir aucun propos désobligeant sur lui à la classe de flûte ou de contrepoint. Aussi, ses plus grandes colères, ses plus sombres et plus injustifiables accès de mauvaise humeur venaient-ils de ce qu'il appelait, en généralisant sans doute quelques cas particuliers où il avait rencontré des malveillants, la fourberie universelle. Il se flattait d'y échapper en ne parlant jamais de personne, en cachant son jeu, en se méfiant de tout le monde. Pour mon malheur, à cause de ce qui devait en résulter après mon retour à Paris, sa méfiance n'avait pas joué à l'égard du chauffeur de Balbec, en qui il avait sans doute reconnu un pareil, c'est-à-dire, contrairement à sa maxime, un méfiant dans la bonne acception du mot, un méfiant qui se tait obstinément devant les honnêtes gens et a tout de suite parti lié avec une crapule. Il lui semblait, et ce n'était pas absolument faux, que cette méfiance lui permettrait de tirer toujours son épingle du jeu, de glisser, insaisissable, à travers les plus dangereuses aventures, et sans qu'on pût rien, non pas même prouver, mais avancer contre lui, dans l'établissement de la rue Bergère. Il travaillerait, deviendrait illustre, serait peut-être un jour, avec une respectabilité intacte, maître du jury de violon au concours de ce prestigieux conservatoire. Mais c'est peut-être encore trop de logique dans la cervelle de Morel que d'y faire sortir les unes des autres les contradictions. En réalité, sa nature était vraiment comme un papier, sur lequel on a fait tant de plis dans tous les sens qu'il est impossible de s'y retrouver. Il semblait avoir des principes assez élevés et, avec une magnifique écriture, déparée par les plus grossières fautes d'orthographe, passait des heures à écrire à son frère qu'il avait mal agi avec ses sœurs, qu'il était leur aîné, leur appui. À ses sœurs, qu'elles avaient commis une inconvenance vis-à-vis de lui-même.